طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. طيب، حياكم الله أجمعين. Donc, se retrouve aujourd'hui par la grâce d'Allah Ta'ala pour un nouveau cours sur notre matière Mustarah al-Hadith. Alors, avant de commencer notre cours, une petite faïda. C'est que dans la position des savants qui disent que l'étude de la science c'est mieux que le djihad, même si on sait que l'étude de la science est une forme de djihad, mais l'étude de la science, c'est mieux que le djihad, parce que l'étude de la science, elle demande un effort perpétuel, un effort, des efforts qui se répète, et ça demande de la patience. Ça demande de la patience, patienter à chaque fois. Des fois, on a des empêchements. Pas des empêchements, des empêchements banals comme on pourrait le croire. Des empêchements, c'est-à-dire ta'arrud. Ta'arrud en arabe. Des empêchements, maladies, wes-wes, tout ce que vous voulez. Le nefs, l'âme qui appelle au mal, donc forcément qui voudra être détourné de la science. Malgré tout ça, et la liste est longue, l'étudiant, il patiente, il s'accroche, il persévère. Quel que soit les barrières, on a déjà expliqué, hein, dans les cours que le shaitan, lui, il passe là, par là où il a réussi à ouvrir une porte, ou alors là où la porte est déjà ouverte. Il passe par là. Et comme on l'a dit de nombreuses fois, souvent, on s'imaginerait jamais que ça, c'était une porte du shaitan. Subhanallah. Al-Muhim, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les efforts qui sont à fournir, ils sont à fournir indéfiniment dans le temps. Dans le temps. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une forme de djihad, et c'est même mieux que le djihad, parce que de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, on patiente. L'étudiant, il patiente. Il patiente sur tous les... sur tout. Même si il peut arriver que l'enseignant il fasse des... comment on appelle ça? Que le cheikh ou l'enseignant il fasse des... c'est pas des erreurs. Bon, bien que tout le monde, personne n'est exempt de l'erreur, mais qu'il fasse des comme des indélicatesses ou des manquements, voilà, qu'il ait des manquements, cela arrive à tout le monde. L'étudiant, il patiente. L'étudiant, il patiente. Nous, on a déjà appelé des savants qui nous ont raccrochés au nez. Dans le passé, on pose la question elle était tellement... voilà, il raccroche. Naam. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. La règle principale, c'est que l'étudiant, s'il veut réussir, hein, celui qui veut réussir, il patiente. Des fois, tu seras malade. Des fois... tout sera possible. Tout sera possible. Mais est-ce que... c'est pour ça que ça se mérite le nom d'étudiant. Il y a des gens, ils s'improvisent comme ça. Ils s'improvisent comme ça. Je suis étudiant en sciences. Alors, il y en a d'autres, ils sont très très honnêtes. Il y en a d'autres, ils sont honnêtes, hein. Ils disent pas, je suis un étudiant en sciences. Je suis un blogueur ou un youtubeur ou je ne sais quoi. Mais ils savent que faut pas dire étudiant en sciences. Non. Donc vous voyez que le statut d'étudiant en sciences, c'est pas n'importe quoi. Même nous-mêmes, souvent, quand on regarde la biographie de nos grands savants, quand on regarde la biographie des salafs, etc., on a honte. Sincèrement, des fois, on a honte. On se dit, subhanallah, mais qu'est-ce qu'on est loin, on est ridicule. Wallahu akbar, comparé à eux. Comparé à eux, des fois, comparé aux, même aux savants de la sunna, aux salaf, des fois, on se dit même, on a des remords. On a des remords, on a trop de choses, on a tout ce qu'il faut, on a trop de choses. Souvent, on a des remords comme ça. Même si ce sont des ni'am, des grâces d'Allah, on essaye de toutes les utiliser dans l'obéissance à Allah, etc. Mais quand on voit que le prophète, il s'est pas du tout attaché à ces choses-là, etc., et que nous, on est plein de... Subhanallah. Eh ben, des fois, on a honte. Des fois, on a honte. Naam. Naam, wallahu a'lam. Cheikh Mokbel, rahimahullah, les gens venaient lui proposer de l'argent, des 4x4 tout neufs. Il disait, donnez à mes étudiants, j'en ai pas besoin. Et si vous voyez comment il habitait dans une petite maison en terre, comme un pauvre, on n'aurait pas dit, hein, Cheikh Mokbel, hein. Tant Allah ibarak de notoriété. Mais ce n'est pas la dunya qui lui a donné la notoriété, c'est la science. Allah Ta'ala, il élève ceux qui ont cru et ceux en degré 1. Il les élève et ceux qui ont la science. Traduction rapprochée. Ce n'est pas la dunya qui les a élevés. Eh ben, on aurait dit un miskin. Cheikh Ibn Baz, pareil. Cheikh Al-Uthaymin. Naham. Donc, concernant le hadith, notre matière, le hadith, concernant le contrôle, on va vous laisser encore un peu de temps parce que j'ai constaté que il n'y avait que 4 élèves qui avaient fait le contrôle. Donc, on va encore vous laisser du temps, Inch'Allah ta'ala. Naham. Et puis, à la suite, si normalement c'est à livre ouvert, donc ça ne devrait pas être trop difficile. Mais, khair, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Tayyib. Donc, Inch'Allah au Ta'ala, on clôturera le contrôle. On est aujourd'hui mercredi. Mercredi prochain, on clôture le contrôle du hadith. Et on fermera le contrôle du hadith. Et ça y est, le premier semestre sera terminé. Naam. Tayyib. Donc, dans notre ouvrage, avec Cheikh Al-Uthaymin, Rahimahullah, on a beaucoup appris sur la terminologie du hadith avec Cheikh Al-Uthaymin. Ce n'est pas terminé. Naham. Tadwinul hadith. Tadwinul hadith. Donc également, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison pour nos étudiants qui sont malades et absents. Naham. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, puis de pardonner aux musulmans et aux musulmanes et aux croyants et aux croyantes. Allahumma ighfirli walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min al ahya wal amwat, parmi les vivants et les morts. Les savants disent que celui qui fait cette invocation, il aura les hasanet pour chaque musulman. Naham. Donc c'est plus de des milliards et des milliards et des milliards. Tayyib. On est arrivé à un des derniers chapitres du livre. On a pratiquement terminé le livre également. Il ne reste pas beaucoup. Où Cheikh Al-Uthaymin, il nous dit la compilation des hadiths. La compilation des hadiths. En arabe, c'est tadwin. Tadwin. Tadwin, ça veut dire compilation. Hadith, vous savez bien ce que c'est maintenant. Qu'un hadith. Naham. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des 4 califes bien guidés, les hadiths n'étaient pas compilés. Alors, j'aurai une question pour les élèves. Le cheikh nous dit, à l'époque des 4 califes, pouvez-vous nous citer les 4 califes, s'il vous plaît? Barakallahu fiikum. Les 4 grands gouverneurs qui ont suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, Ahsanti, mashallah. Je sais que ça a dégainé chez les frères. Vite. Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Othman, Ali. Omar ibn al-Khattab. Très bien. Alors, je suis à vous les frères, c'est juste que le téléphone, c'est un peu long. Voilà. Cher papa, salam alaikum, Abou Bakar, Othman, Omar, Othman, Ali, Ahsan, Abou Bakar, Omar, Othman, Ali, radiallahu anhum, mashallah, Cheikh Abdallah, kazalik. Naam, Ahsantoum, Ahsantoum, tamam. Alors, vous pouvez vous poser la question, et encore, on a été gentil. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi cette question? Il y a une année, j'ai fait ce qu'on appelle un entretien à l'université de Médine. Donc, quand vous postulez pour être étudiant à l'université de Médine, on vous reçoit dans un bureau et il y a une personne qui vous reçoit comme ça. C'est avant de faire le dossier, hein, où je crois qu'on avait fait le dossier avant ou après, je ne me souviens plus. Donc on avait été reçu dans le bureau comme ça et le recruteur, il nous avait, je me souviens, posé la question, quels sont les 10 à qui les 10 compagnons à qui il a été annoncé la bonne nouvelle du paradis. Ça a été la première question. La deuxième question, le cheikh, le recruteur, il nous a demandé, récite-nous du Coran. Récite-nous ce que tu veux du Coran. Naam. Donc c'était pour vous dire que on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a des choses minimum à connaître. Si vous ne les connaissez pas, bah, ça peut être Naham. Ça peut jouer contre vous. Un jour, vous allez postuler quelque part, ou alors, je ne sais pas, on vous pose ces questions. Et attention, hein, attention, je vais vous donner un deuxième exemple. Je vais vous donner un deuxième exemple pour, comme ça va vous confirmer que, ah ouais, c'est vrai, ça peut arriver à n'importe qui. Un jour, il y avait un frère qui était proche de nous. À l'époque, hein, quand on était en France, on se connaît plus d'une quinzaine d'années. Un jour, ce frère me dit je dois aller à la mosquée de 77 ou 78, la mosquée je crois que c'était des mureaux comme ça. Je dois faire une muqabala. Il est déjà marié, mais il voulait une deuxième. Et il va pour faire une muqabala pour épouser une deuxième. Donc je l'ai accompagné. Moi je suis resté à la mosquée. Enfin je me souviens plus, il y a très longtemps. Et le frère quand il est revenu, il m'a dit je suis tout ridicule. Je lui dis qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit la sœur, elle avait un questionnaire. Cite-moi le début de telle sourate. Cite-moi les 10 versets de telle sourate. Question dans la religion. Elle l'a bombardé de questions. Et bon, lui, c'est pas un étudiant. C'est un frère qu'on apprécie beaucoup. Il a vraiment un cœur sur la main, mashallah, etc. Mais c'est pas un étudiant. Donc, voilà, il a été. Si vous préférez, il a échoué à l'examen. Il a échoué à l'examen. Donc c'est bien toujours de connaître un minimum. Parce que toi, tu ne sais pas, en tant que célibataire, c'est un exemple. En tant que célibataire, ou alors postulant dans une mosquée, ou je ne sais pas ce que vous voulez, alors on va te poser des questions basiques. Et puis toi, tu ne sais pas. Donc ça sera contre toi. Naham. Voilà pourquoi je vous ai demandé ici, lorsqu'il a parlé des quatre califes, Cheikh Al-Uthaymeen, ça m'a fait penser, j'ai dit, tiens, on va leur poser la question. Non, malgré que je pense que normalement, il n'y a pas un musulman qui ne connaît pas ça. Taïb. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des quatre califes bien guidés, les hadiths n'étaient pas compilés comme cela. Se fera plus tard. D'après Urwa ibn Zubayr, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, entreprit un jour de mettre les hadiths par écrit. Donc vous voyez, à l'époque, au tout début du prophète, alayhi salam, de toute façon, normalement, vous le savez déjà, enfin, peut-être vous n'êtes pas tous au cours de Ulum al-Qur'an, mais pour ceux qui sont au cours de Ulum al-Qur'an, même dans le fiqh, normalement, on a parlé de ça, vous savez déjà que la première forme de... Et même dans le hadith, on l'a fait, hein, la première forme de transmission, ça a été la transmission orale. C'est pas tout de suite qu'ils se sont mis à écrire, etc. Naham, on va pas rentrer dans le détail, ce détail-là, vous le connaissez. Ce détail-là, vous le connaissez normalement. Le détail qui dit que, voilà, au début, ils ont pas noté, et il y avait que le Coran qui était privilégié de peur de mélanger avec la Sunna, etc., que les gens mélangent, etc., etc. Vous connaissez tout ça normalement. Il consulta les compagnons, donc Omar ibn Khattab. Il consulta les compagnons du messager d'Allah, alayhi qui furent favorables à cette initiative. Pendant un mois, Omar exécuta plusieurs fois la prière de consultation. Alors, on a de la faïda ici. Regardez. Regardez les compagnons, et c'est pas n'importe quel compagnon, Omar. Regardez la méthodologie, la sunna, la tradition. Il n'a pas eu une idée et pris une initiative tout seul comme ça, en suivant ses passions et sa volonté, etc. On voit ici qu'ils disent il consulta les compagnons du messager d'Allah, alayhi. Donc, c'est comme s'il a demandé aux savants. Il a demandé aux savants. Également, donc il a eu leur réponse, ils étaient favorables. Et à la suite de ça, pendant un mois, il a fait plusieurs fois salat al-du'a istikhara, la prière de consultation. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors qu'il y a des gens aujourd'hui, ça leur prend comme ça, tiens, on va faire ça. Tiens, vas-y, on va faire ça. Et ils le font et ça devient une innovation. Ça devient une innovation. Alors, on va vous reposer une question. Pourquoi, à votre avis, le fait de mettre les... Comment vous argumenterez si on vous dit, par exemple, hein, si quelqu'un il vous dit le fait de les ahadiths, le fait de les compiler en écrit, c'est une bid'a. Comment vous répondrez? Vous répliquerez. Moi, je sais que la réponse, vous l'avez, mais faut juste réfléchir. La réponse, vous l'avez. Pour garder la sunna du prophète, pour préserver toute falsification. Naham. Naham, c'est une réponse. Barakallahu fik. Mais, si les salafs et compagnons l'ont fait, ce n'est pas une bid'a. Mashallah. Déjà, ça, oui, ça remet en place. Ça remet en place. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Alors, je vais vous éclairer. Ce n'est pas une bid'a car ils étaient unanimes sur le fait d'écrire. Mashallah, également. Très bien. Alors. Ah, j'avais pas vu, Cheikh Papa, tu m'excuses. Le prophète a déjà ordonné qu'on écrive après la révélation et certains écrivaient du vivant du prophète. Ahsen, Cheikh Papa. La première réponse, c'est celle-là. Toutes les réponses sont bonnes, attention, hein. Mais si vous dites ça en réplique à quelqu'un, il peut plus parler. Il peut plus parler. Moi, c'est la réponse que j'avais. Mais attention, toutes vos réponses, elles sont validées. Ce sont des répliques. On n'a pas dit qu'on voulait une réplique précise. Mais moi, celle que j'avais en tête, moi, c'est ce que j'aurais répliqué également. Le prophète a déjà ordonné qu'on écrive après la révélation. Et certains écrivaient du vivant du prophète. Le prophète, il a ordonné, vous vous rappelez, à un tel de d'écrire le Coran, etc. Ça veut dire que c'est pas une bid'a. Ça peut pas être une bid'a dans ce cas-là. Vous comprenez? Naam. Il avait ordonné d'écrire le Coran et pas la Sunna. Oui. Naam. Mais comme il avait ordonné d'écrire le Coran, ça veut dire que ce n'est pas une bid'a d'écrire. D'écrire en général, ce n'est pas une bid'a d'écrire en général. Donc ça va comprendre aussi le Coran, ça va comprendre aussi la sunna. Si par exemple la personne, c'est pertinent, comme nous dit notre étudiante, c'est pertinent, il avait ordonné d'écrire le Coran, mais pas la sunna. Mais il n'a pas interdit la sunna. Sinon, jamais les compagnons ne l'auraient fait. Et il y a même un dalil qu'il avait parlé, il y a des textes comme quoi il avait parlé, le prophète, un saint salem, d'écrire la sunna. Naam. Donc en fait, tout ça, ce sont des textes, des preuves que nous, la question qu'on a posée, c'est si quelqu'un te dit, c'est une bid'a d'écrire la sunna, de la mettre, de la compiler, de l'écrire. À partir du moment où le Coran, qui est plus, c'est la parole d'Allah, le Coran, il est permis de l'écrire. Pourquoi la sunna, ce ne serait pas permis de l'écrire? Donc le fait que le Coran, il a été autorisé par le prophète de l'écrire, de même la sunna, ce ne sera pas une bid'a. Wallahu a'lam. Tayyib. On continue. Qui furent favorables à cette initiative pendant un mois, Omar exécuta plusieurs fois la prière de consultation. Ensuite, un jour, il se réveilla plein de fermeté venant d'Allah. Il déclara: J'avais le désir de faire écrire les hadiths, mais je me suis souvenu d'un peuple avant vous qui a écrit des livres. Ensuite, il s'y est attaché à un point où il a délaissé le livre d'Allah. Or, par Allah, jamais je ne recouvrirai le livre d'Allah par quoi que ce soit. Omar ibn Abdelaziz, lors de son califat, de son règne, craignit la disparition des hadiths. Il écriva alors à son qadi de Médine, son juge de Médine, Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, ce qui suit. Fais mettre par écrit tous les hadiths que tu pourras collecter, car je crains la disparition du hadith, la mort des savants, mais limite-toi aux hadiths prophétiques. Diffusez le savoir. Asseyez-vous pour enseigner afin que sache celui qui ignorait. Le savoir ne disparaît que quand il devient secret. Subhanallah. Il y a une grosse faïda également ici. Lorsqu'il nous dit, le savoir ne disparaît que quand il devient secret. Alors, on va vous apporter une faïda ici. On va vous apporter une faïda également ici. Une petite parenthèse. À la base, les savants de la sunna disent, se basant sur des textes, se basant sur des textes religieux, ils disent, il n'est pas permis de cacher la science. Ça, c'est la base, al-asl. À la base, il n'est pas permis de cacher la science. Si tu as une science, t'as pas le droit de la cacher, de la garder que pour toi ou de la cacher. On appelle ça ketm al-ilm. Ketm al-ilm. Tayyib. Mais attention maintenant, vous avez fait du usul fiqh, vous faites du fiqh, on apprend des règles dans la religion, vous faites du manhaj, dans le manhaj et la aqida, on apprend des règles. Et donc vous devez savoir que quand on dit à la base, ça veut dire que ça sous-entend c'est pas dans l'absolu. Il y a des cas d'exception. Il y a des cas d'exception où tu peux cacher la science dans un intérêt. Pour un intérêt, tu peux cacher la science. Taïeb? Voilà. Mada yaqoul, comment interpréter le hadith où le prophète a interdit à un homme de rapporter un hadith de lui, mais au final, à sa mort, il l'a quand même rapporté, peur de commettre une faute, je crois. Donc, comment interpréter était Hassim, le rapporteur, puisqu'interdiction du prophète, car il avait dit qu'il avait peur que les musulmans se contentaient de ça. Ça, wallahu a'lam, il me semble que on trouve ça dans Kitabut Tawhid, le livre de l'unicité. Cette mas'ala, elle est expliquée. Parce que, au contraire, il y a plusieurs compagnons comme ça qui avaient. On a entendu plusieurs récits comme ça de compagnons qui avaient une science cachée, un hadith, ou que le prophète, il l'avait dit que à cette personne, etc. Et justement, comme ils voulaient respecter cette règle, appuyé, wallahu a'lam, il me semble que c'est dans un verset du Coran, que c'est interdit, il y a un châtiment pour celui qui cache la science. Donc c'est pour ça que ses compagnons, avant de mourir, ils sont obligés de dire. Maintenant, si le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a interdit à un certain moment, c'était pour un intérêt. Mais quand cet intérêt disparaît, je vais vous donner un exemple, c'est mentionné dans Kitab al-Tawhid. Il y a un hadith qui dit celui qui dit là, il informe les gens derrière ce mur que celui, ou informe les gens tout court que celui qui témoigne de là, ilaha illallah, il ira au paradis. Les gens, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit à un compagnon, ne les informe pas. Mouhim, je ne me rappelle plus du hadith, mais c'est un hadith dans le Tawhid. C'est dans Kitab al-Tawhid. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un hadith à ce compagnon. Ce compagnon, il a dit, ah, je vais le dire à tout le monde, je vais le dire aux gens. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne le dis pas, de crainte qu'il se repose sur ça. Qu'il se repose sur ça. Donc ça, c'est un genre d'interdiction temporaire. Temporaire. Par rapport à un intérêt. Mais le compagnon, il ne peut pas mourir avec un hadith que seul lui-même connaît. Ça contredirait la religion. Wallahu a'lam. Il envoya, donc retenez la règle, c'est une règle, il est interdit de cacher la science, sauf pour un intérêt. Sauf pour un intérêt. Wafik barakallah, Sheikh Abdullah, wafik barakallah. Il envoya la même recommandation aux autorités de différentes contrées. Il donna ensuite l'ordre à Mohammed ibn Shihab al-Zuhri de compiler les hadiths. Il fut donc le premier à compiler les hadiths sur ordre de l'émir des croyants, Omar ibn Abdelaziz. Cela eut lieu en l'an 100 de l'Hégire. Par la suite, d'autres lui emboîtèrent le pas, c'est-à-dire ils prirent exemple sur lui. Hein. Rasmi'at sana min al-Hijrati. Puis les gens ont suivi, l'ont suivi, et la manière de transcrire les hadiths se diversifièrent. Se diversifièrent. Taïb. Alors, vous gardez cette base, vous gardez cette base qu'on vient d'apprendre dans ce chapitre, que le fait de cacher la science, c'est interdit, mais en même temps, rappelez-vous qu'il y a des exceptions. Si on la cache, Naham, si on la cache, c'est lorsqu'il y a un intérêt. C'est lorsqu'il y a un intérêt, tu caches la science. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à recevoir certaines connaissances. Donc on ne leur parle pas de ça. On ne leur parle pas de ça. Taïb. Mais rien n'empêche que par la suite, lorsqu'ils ont atteint le niveau, ou lorsqu'ils sont prêts, ou lorsqu'il y a un intérêt, hop, on leur dira ce qu'on avait caché auparavant, on pourra leur dévoiler. Alors, On continue pour le chapitre suivant, Turuq Tasnif al-Hadith, les recueils de hadith, les manières et les méthodes concernant pour rédiger les recueils de hadith. Turuq Tasnif al-Hadith al-Nawain. Donc il y a deux façons de rédiger un recueil de hadith. Les recueils fondamentaux. Dans cet ouvrage, l'auteur transcrit des hadiths avec des chaînes de transmission partant de lui et remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces recueils fondamentaux prennent plusieurs formes. Les recueils thématiques, chaque chapitre constitue un tome indépendant. Le tome de la prière, le tome de l'aumône légale, etc. C'est la méthodologie de Zuhri et de ses compagnons. Je vous ferai un petit résumé à la fin, vous inquiétez pas. Ensuite, on a les recueils en chapitres. Un tome peut contenir plusieurs chapitres qui sont ordonnés selon les sujets de la juridiction ou autre, la jurisprudence, pardon, ou autre. C'est la méthodologie d'Al-Bukhari, de Muslim et des auteurs des Sunan. Des Sunan. Alors, on a une question ici. Je sais qu'on l'a fait, mais rapidement. Et peut-être comme il y a des élèves qui ne sont pas à toutes les matières, ils ne seront peut-être pas capables de répondre. Mais ce n'est pas grave. Pour ceux qui ont la capacité de répondre, le cheikh ici nous dit le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim et les auteurs des Sunan. Est-ce que vous pouvez nous citer les auteurs des Sunan? Kutub Sitta. Abu Daoud, très bien, très bonne réponse. Tirmidhi, très bonne réponse. Tirmidhi, At-Tirmidhi, naam, très bonne réponse. Nasa'i, mashallah. Abu Daoud, Ibn Majah, Malik, An-Nasa'i. Sunan Ibn Majah, Abu Daoud, Abi Daoud, Tirmidhi, An-Nasa'i, mashallah. C'est très bien. Je regarde encore chez les étudiantes si j'ai pas sauté quelque chose parce que il en manque un quand même. Alors c'est selon les savants. Il y en a, ils vont dire il est dedans. Il y en a, ils vont dire il n'est pas dedans. Mais nous, on a la position. Ibn Majah, il a été cité, c'est pas celui-là. 1-1. Alors, je regarde chez les frères. Chez les étudiantes, il n'a pas été mentionné encore. Mashallah, Cheikh Abdallah. Le mousned de l'imam Ahmed. Le mousned de l'imam Ahmed. Ahsan, Cheikh Abdallah. Ibn Hanbal. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler du mousned de l'imam Ahmed. Le Mouatta, oui, il y a un frère, il a cité l'imam Malik. Oui, le Mouatta, oui. Il y a des savants qui le voient, oui. Al-Muwatta. Vous savez qu'avant le Al-Bukhari wa Muslim, c'était le Muwatta la référence. Hein. C'était le Muwatta. C'est attention, c'est une grande référence le Muwatta. Hein. C'est quelque chose hein, de l'imam Malik. Hein. Mashallah, Allah ibarak, vous avez tout cité. Et pour ceux qui n'étaient pas au courant, bah c'est bien, vous profitez. C'est pour ça qu'on pose des questions. C'est pour que les élèves qui ne savent pas ou qui ont oublié ou autres, puissent profiter également. C'est le but des questions. Hein. C'est le but des questions. Naham. Taïb, qu'y a-t-il d'autre? Alors, troisièmement, les recueils par compagnons. Les hadiths sont regroupés par compagnons qui les a rapportés. Dans la partie consacrée à Abu Bakr, radiallahu anhu, on rapporte alors l'ensemble de ses narrations dans celle consacrée à Omar, radiallahu anhu. Tout ce qui a été transmis de lui, et ainsi de suite. C'est la méthodologie d'Ahmed et de son mousned. Vous voyez? Ahmed et son mousned. Donc, en fait, ça a l'air technique, mais en fait, on nous explique quoi ici? On parle des recueils de hadiths, c'est-à-dire les livres. Les livres de hadiths. Les spécialistes qui ont recueilli les hadiths. On nous dit que il y a plusieurs manières de classer les hadiths selon les grands spécialistes. D'accord? On nous dit la première manière, c'est les recueils thématiques. D'accord? La deuxième manière, recueil thématique, c'est chaque chapitre constitue un tome indépendant. Mashallah. Deuxièmement, les recueils en chapitres. Un tome peut contenir plusieurs chapitres. Et troisièmement, les recueils par compagnon. Alors là, c'est classé par compagnon. Taillé? Ensuite, on nous dit, donc ça, c'était la première catégorie où il y a trois formes. Ensuite, on a la deuxième catégorie de recueil, de la manière de rédiger les recueils de hadith. On nous dit, c'est les recueils subsidiaires. Tasnif al-furu'a. Al-furu'a. Alors, je vais juste regarder en arabe rapidement. Wa hiya allati yanqaluha مصنفها من الأصول المعزو نعم معزوة إلى أصلها بغير إسناد وله طرق أيضا منها فمنها طيب ici l'auteur pour les recueils subsidiaires ici les auteurs puisent les hadiths dans les recueils fondamentaux Bukhari, Muslim et autres en les rapportant sans la chaîne de transmission et en citant la source. Ces recueils subsidiaires prennent plusieurs formes. Les recueils en chapitres, comme Bulugh al-Maram, d'Ibn Hajar al-Asqalani, Amdat al-Ahkam, de Abdelghani, pardon, al-Maqdisi. Donc ici, on nous dit qu'il y a d'autres formes de recueils. C'est les recueils, premièrement, en chapitres, où il n'est pas mentionné. Les chaînes de transmission, mais sont mentionnées les sources, ça veut dire que c'est des recueils qui sont moins techniques. C'est pour ça que les débutants, ils étudient beaucoup Bulugh al-Maram, Amdat al-Ahkam, ce sont des livres pour les débutants. Zad al-Mustaqna, al-Mustaqni également. Il n'y a pas les. Naam. Quoique, pourquoi? Alors, tiens, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, on vous a dit Zed el-Mustaqnir, mais en fait, c'est une erreur. Zed el-Mustaqnir, il ne sera pas classé dans toutes les catégories qu'on a dit ici. Qui peut nous dire pourquoi? Alors, il faut juste réfléchir. Je sais que la réponse, vous la connaissez. Mais il faut juste y penser, c'est tout. Si vous ne trouvez pas, à chaque fois, je vous éclairerai de plus en plus jusqu'à ce que vous trouviez. Alors. On a une réponse. Car c'est la parole de l'auteur Moussa. Mashallah. Arsenti. Arsenti. Alors, je vais. Faut que je mette le. Alors. Parce qu'il est du Madhab Hanbalite? Non. Parce que c'est la parole de l'auteur Moussa ibn Hajjawi et non pas hadith. Arsent, c'est la bonne réponse. Car ce n'est pas un recueil de hadith, c'est un livre de fiqh. Arsent, cher papa également. Cher papa, barakallahu fik. Arsentum. Arsentum. Parce que il n'est pas dans cette catégorie, parce que Zad al-Mustaqnar, ce n'est pas un recueil de hadith. C'est un metn fait par un grand savant. Naam, ce n'est pas un recueil de hadiths comme Bulugh al-Maram, Amdat al-Ahkam, etc. Naam. Alors, ensuite on a les recueils en glossaire. Ici, les hadiths sont regroupés par leurs premières lettres, comme dans Al-Jami', Al-Sarir, Al-Suyuti. Il existe encore bien d'autres formes de compilation et de recueil. Chaque traditionniste essayant d'ordonner les hadiths de la manière la plus claire possible. Alors, écoutez bien. Il est vrai que pour notre niveau de débutant ici, c'est pas que cet ouvrage de Cheikh Al-Uthaymeen, il est très 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 technique, mais pour des débutants qui n'ont aucune connaissance, etc., ça peut sembler un peu technique, etc. Donc, ce qu'on vous recommande, déjà, c'est une ni'ma de pouvoir l'avoir en arabe français. Sachez que c'est une grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'avoir accès à ce contenu et de pouvoir l'avoir en français. Ça veut dire que n'hésitez pas à lire et à relire, mais également le principal pour le moment à notre niveau ici de débutant, le principal c'est de comprendre les grandes lignes. Parce que ces choses-là, dans le détail, on va les voir à la suite de l'enseignement. Vous savez que notre enseignement, il ne s'arrête pas à un ouvrage, hein. Il y aura des dizaines, voire plus d'ouvrages. Et là, on entrera dans le détail, en théorie et même en pratique, par la suite. Donc, ne vous inquiétez pas. Juste, par exemple, si quelqu'un, il a tout assimilé, c'est le top. C'est le top. Mais si quelqu'un, il n'a pas tout assimilé, il y a trop d'informations, déjà, s'il a compris qu'il y a plusieurs formes, plusieurs manières de recueillir les hadiths. Il y a plusieurs formes, il y a telle forme, ça diffère. Déjà, c'est très bien. Il a compris le concept, il a compris le chapitre, ça va lui servir. Il ne sera pas à la traîne si un jour il voit une forme, puis un autre jour il prend un autre ouvrage, il voit une autre forme, il se dit, attends, je suis perdu. Non, tu sais déjà qu'il y a plusieurs formes de recueil. Naham. Donc vous voyez? Naham. Alors, ensuite, je regarde l'heure pour voir si on peut entamer. On va essayer. Quoique celui-là, il fait plusieurs pages, hein, ce chapitre. Il fait plusieurs pages. Ah oui, celui-là, ce chapitre, il est bien. Il termine bien le shir, mashallah. C'est le dernier chapitre, les bienfaisances du savant et de l'étudiant. Non, c'est l'avant-dernier chapitre, on dira. Ah, il a bien terminé, Cheikh Al-Uthaymeen, subhanallah. Il termine bien, mashallah. Donc le mieux c'est de s'arrêter là et de commencer le nouveau chapitre dans le cours qui suivra, Inch'Allah Ta'ala. Pour ceux qui n'ont pas fait le contrôle, on vous enjoint. Oui, vous pouvez poser, hein. J'allais vous dire ceux qui ont des questions à poser, il reste un petit peu de temps. Allez-y, Inch'Allah. Si on a la capacité de répondre. Si on a la capacité, Inch'Allah Ta'ala. Alors pour ce qui est du détail concernant toutes ces questions, comme on vous a dit, pour ce qui est du détail, ça viendra dans les ouvrages qui suivront. Hein. Vous avez bien vu, comme dans Ulum al-Qur'an, on a appris des bases, et là on est dans un ouvrage où c'est un peu plus, niveau un petit peu plus au-dessus. On a des dessins, plutôt on a des schémas, on a des questions-réponses, on a du rajout par rapport à ce qu'on a appris précédemment. Dans toutes les matières, ça va être comme ça. Donc, Naham. J'aimerais savoir si dans ce cours, il y a un PDF en français. Dans ce cours ou dans les cours de hadith en général ou pour ce cours-ci? Les cours, on va vous le faire, Inch'Allah. Si vous voulez un PDF en français vous parlez de nos cours à nous, ou vous voulez le livre de Cheikh Al-Uthaymeen, PDF en français du livre. Les cours et le livre, Mashallah. Les cours et le livre, les cours, il me semble qu'il y a une étudiante, les cours. Il me semble qu'il y a une étudiante qui retranscrit, Normalement, il y a une étudiante qui retranscrit les cours. Et pour le livre, on va vous le faire, Inch'Allah. Si ce n'est pas déjà fait, s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a, on vous le fera, Inch'Allah ou Ta'ala. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Wafikum Barakallah. Alors, il y avait des questions là. Comment la compilation a commencé à l'époque du califat de Omar, comme plus tôt, concernant un, est-ce qu'on peut considérer les premières compilations comme des recueils? De ah, wallah, wa'alam, moi, de ce que je sais, c'est que non. Wallah, wa'alam, moi, de ce que je sais, c'est que ils sont pas classés. On a vu hein, déjà dans les. Même dans le fiqh, tout ça et tout. Wallahu alam, je vérifierai, mais il me semble que non. Wallahu alam. Je préfère dire Wallahu alam. Hein. Je vérifierai, Inch'Allah ta'ala. La deuxième question, pouvez-vous donner un exemple de différence entre les recueils thématiques et en chapitre? Alors. Les recueils thématiques et les recueils en chapitres. Les recueils thématiques, chaque chapitre constitue un tome indépendant, le tome de la prière, le tome de l'aumône légale, etc. C'est la méthodologie des Zuhri et de ses contemporains. Donc ici, on nous a donné, on nous donne ici un exemple. On nous donne un exemple ici pour les thématiques, c'est-à-dire thématiques que c'est classé par thème. Chapitre constitue un tome indépendant, le tome de la prière, le tome de l'aumône légale, etc. Ça, c'est la méthodologie des Zuhri. Naam. Le recueil. Et ensuite, vous avez demandé le recueil par chapitre. Un tome peut contenir plusieurs chapitres qui sont ordonnés selon les sujets de la jurisprudence ou autre. C'est la méthodologie d'Al-Bukhari, de Muslim et des auteurs des Sunnen. Donc pour les recueils en chapitre, c'est la méthodologie d'Al-Bukhari, donc le Sahih Al-Bukhari, qui est classé par chapitre. Le Sahih Muslim, le recueil authentique de Muslim. Et également les Sunnen. Les Sunnen, vous les connaissez, on les a mentionnés précédemment. Pour les thématiques chez les contemporains, je ne sais pas s'il y en a. Wallahu a'lam. Pour les contemporains, je ne sais pas s'il y en a parce qu'il dit les contemporains, mais de Zuhri. Et Zuhri, il n'est pas de notre époque. Il n'est pas de notre époque. Donc, si on devrait donner des exemples, ce serait des exemples. Très ancien. Naham. On pourra toujours vérifier. Naham. On pourra toujours vérifier. Tayyib, si vous avez d'autres questions, Inch'Allah, il n'y a pas de souci, vous pouvez poser vos questions. En fait, par exemple, il y aurait un thème salat et un recueil de chapitres, ce serait la prière, condition, pilier. Naam. Naam. Ce serait classé par, comme il a dit, par thème. Par thème. Le chapitre de la prière. Le tome de la prière. Le tome de l'aumône légale. Naam. Etc. Alors, sûrement qu'il y a des contemporains. Qui ont pris cette méthodologie. Je n'ai rien en tête ici, mais sûrement qu'il y a des contemporains qui ont pris cette méthodologie hein, de classer par chaque tome est égal à un thème. Afikum barakallah. Chaque tome est égal à un thème. La prière, l'aumône légale. Naham. Moi, je vois beaucoup ça dans les. Mais c'est pas des recueils. Je vois que les savants dans les fatawas, ils ont un peu pris cette méthodologie dans les fatawas. Le tome du Hajj, le tome de la Aqida, c'est par thème. Wallahu a'lam, mais ce n'est pas des recueils de hadith. Non. Et les recueils en chapitres, bah, Bukhari, Muslim, et les Sunan. Hein. Si vous voulez, on va regarder tout de suite. On va regarder tout de suite. Alors les Sunan. Les Sunan, on a ici. Alors, où sont-ils? On a... attendez 2 petites secondes. Voilà, je les ai ici. Ici, on a Abu Daoud. On a Abu Daoud. C'est un exemple, hein? Abu Daoud. Naham. C'est par chapitre. Chapitre, alors là je vais commencer du début. Voilà par exemple, les Sunan, Abi Daoud ici. C'est des chapitres. Voilà. Chapitre de la purification. Alors c'est long, hein. 3-4 pages au moins à tourner. Chapitre de la prière, il y a tout sur la prière. Chapitre de la zakat, chapitre, etc., etc. Le hajj, le divorce, le jeûne, le djihad. Ça, c'est Abu Daoud. Ça, c'est Abu Daoud. Ensuite, on a Ibn Majah, Tirmidhi, etc. C'est de cette manière. Naham. Naham. Donc voilà. Muslim, en fait, ça va dépendre si vous préférez les tomes, le nombre de tomes, en fait, ça va dépendre. Hein. Ça va dépendre. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Parce qu'il y a une différence, il y a une différence. En fait, ça va dépendre. Est-ce qu'on parle du recueil tout seul? Là, ça peut faire un gros livre, un gros livre, mais c'est un seul livre. Comme là, je vous ai sorti Abu Daoud. J'ai aussi Tirmidhi. J'ai aussi Ibn Majah. J'ai Bukhari, j'ai Muslim également. Mais là, les recueils, je les ai en un seul gros tome. Si, par exemple, je vais prendre, on reprend Abu Daoud. Là, celui que je vous ai sorti, c'est le gros tome de Abu Daoud sans l'explication. C'est comme si vous prenez Bukhari sans l'explication. Ça ne va pas faire 6, 15 tomes, 10 tomes. Là, par exemple, on prend Abu Daoud, celui que je vous ai montré, l'original de Abu Daoud avec tous les hadiths. C'est un seul gros tome. Mais j'ai ici l'explication de Abu Daoud, par exemple. Sunan Abu Daoud, normalement, je l'ai. Où c'est qu'il est passé? Naram, il est là. Il est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volumes. L'explication Tirmidhi. Il est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 volumes. 11 volumes, c'est l'explication. Mais le recueil tout seul, c'est un gros livre. Tout seul. Naram, j'espère que, Inch'Allah ta'ala, vous avez compris. Y a beaucoup de choses dans. Alors, je peux répéter, c'est pas un souci si vous voulez, hein. Vous dites juste que vous n'avez pas compris. En fait, quand on dit, mashallah, quand on dit le recueil, ça ne me dérange pas, quand on dit le recueil de l'imam Muslim, ou le recueil de Bukhari, ou le recueil de Abu Daoud, Tirmidhi, etc., c'est dans un gros livre, un seul gros livre, Muslim, ça peut être contenu dans un seul gros livre. Mais quand tu vas dire l'explication du Sharh Muslim, là c'est en plusieurs volumes. Oui, moi j'ai Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah ici. Et c'est en un seul gros volume. Hein. Il y a tous les hadiths qu'ils ont recueillis. Mais si tu veux, si la personne, l'étudiant après, il voit qu'il y a beaucoup de volume, il faut qu'il se dise que ça, c'est l'explication. Regardez, Bukhari, je l'ai ici. Explication du Sahih Bukhari, il est en plusieurs volumes. Il est en plusieurs volumes. L'explication du Sahih Bukhari, 2, 4, 6, 8, 10, 11 volumes. Mais ça, c'est l'explication des hadiths. C'est l'explication. C'est pas le recueil tout seul du Sheikh. Naam. Wallahu a'lam. Donc, Inch'Allah ta'ala, ça n'actafi bihad al-qadr. Normalement, c'est un cours de, il me semble, Tawhid, je crois. Le prochain cours. On se donne rendez-vous comme d'habitude, Inch'Allah ta'ala, tout à l'heure. Barakallahu fikoum pour votre présence, votre patience, votre naam, présence, patience. Naam, barakallahu fikoum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.